de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos. Comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Sejrit dan bonsoir, voici le journal, nous commençons avec les titres. L'Indonésie et la Tanzanie discutent de l'amélioration des relations bilatérales. Ministre indonésien des Finances encourage les jeunes à faire carrière à la Banque mondiale. PBID recommande toujours le quatrième vaccin, même si la COVID-19 est endémique. La Tanzanie ouvre une ambassade à Jakarta. Le concours indonésien de robots 2023 met en compétition des robots sous-marins. L'aéroport Ngurah Rai a remporté un prix de gestion de l'énergie de classe mondiale. Voici le journal complet. L'Indonésie et la Tanzanie ont discuté des efforts visant à améliorer les relations bilatérales lors de la réunion entre la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et la ministre des Affaires étrangères et de la coopération est-africaine de la République de Tanzanie, Stergomena Lawrence Tax, à Jakarta, jeudi 22 juin. L'Indonésie et la Tanzanie ont enregistré une tendance positive dans les relations commerciales entre les deux pays qui ont augmenté de 50% de 2019 à 2022 avec une valeur de plus de 340 millions de dollars américains. Selon Retno Marsudi, sur la base de cet élan, l'Indonésie a l'intention d'exporter plusieurs autres biens tels que des pneus en caoutchouc, des engrais, des aliments et des poissons. En outre, l'Indonésie et la Tanzanie ont également convenu d'explorer la possibilité d'établir un accord commercial préférentiel de manière bilatérale. Retno Marsudi a ajouté que les deux pays avaient également discuté des efforts visant à accroître les investissements de l'Indonésie en Tanzanie et à renforcer la coopération pour renforcer la résilience sanitaire. Pendant ce temps, dans le secteur du développement, Retno Marsudi a déclaré que l'Indonésie et la Tanzanie avaient mis en œuvre divers programmes de coopération au développement, notamment le renforcement des capacités, la formation à la sécurité alimentaire, le commerce, l'investissement et l'éducation.
For this year and next year, we will continue to provide with the similar programs in the field of.
Pour cette année et l'année prochaine, nous continuerons à fournir des programmes similaires dans le domaine de l'agriculture, des mines et de l'énergie. À long terme, nous cherchons à intensifier notre coopération, notamment en élaborant un plan de coopération par pays en matière de coopération au développement. En plus de ces quatre questions, les deux ministres ont également discuté des préparatifs de la visite du président Joko Widodo en Tanzanie à la fin de cette année et d'une éventuelle visite du premier ministre tanzanien à l'Indonésie. Les Dominicains espèrent que cette visite débouchera sur une coopération concrète et significative bénéfique pour les peuples des deux pays. La ministre indonésienne des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a encouragé les jeunes à faire carrière à la Banque mondiale. Selon elle, la Banque mondiale, à travers le groupe de la Banque mondiale, GBM, a besoin de ressources humaines pour surmonter les défis des perspectives économiques mondiales. Dans une déclaration à Jakarta, jeudi, Sri Mulyani a également encouragé les employés du gouvernement et du privé à effectuer des détachements ou des stages à la Banque mondiale. Le GBM propose des programmes qui offrent des opportunités d'apprentissage, de dotation en personnel et de renforcement des capacités pour les professionnels juniors et intermédiaires afin qu'ils expérimentent de première main le travail au GBM. Sri Mulyani a déclaré que l'Indonésie, en tant que membre du GBM, a une excellente occasion de bénéficier de son programme d'amélioration des ressources humaines en tant que principal moteur de la croissance économique à long terme. La présidente du comité exécutif du groupe de travail COVID-19 de l'Association des médecins indonésiens, Erlina Burhan, a conseillé au public de continuer à effectuer le 40, c'est-à-dire la quatrième vaccination ou le deuxième rappel, même si le statut de la pandémie de COVID-19 en Indonésie est officiellement devenu endémique. Erlina a déclaré que le quatrième vaccin devait encore être effectué, mis à part le fait que le niveau de réussite était encore faible, plus l'augmentation de l'immunité serait élevée, ce qui aurait certainement un impact sur le niveau d'infection à la COVID-19 dans la communauté. Erlina a rappelé que même si la COVID-19 peut être très bien contrôlée et que la possibilité de mutation pour de nouvelles variantes du virus SARS-CoV-2 est très faible, le risque de transmission entre individus peut toujours se produire. La vaccination est très influente dans la formation d'anticorps publics contre la COVID-19 afin de minimiser à nouveau la possibilité d'un pic de cas. La Tanzanie va officiellement ouvrir son ambassade en Indonésie. Cela a été transmis par la ministre tanzanienne des Affaires étrangères, Stergomena Lawrence Tax, lors d'une conférence de presse après une réunion bilatérale avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, jeudi. Tax a également déclaré que l'Indonésie était une alliée et était l'un des premiers pays à ouvrir une ambassade de Tanzanie après l'indépendance. Tax a expliqué que sa visite en Indonésie serait suivie d'une visite officielle du premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa en septembre. Le premier ministre Majaliwa est accompagné d'une délégation commerciale tanzanienne qui concrétisera la coopération commerciale entre les deux pays. Le concours indonésien de robots 2023, KRI, qui se tenait sur le campus de l'Université Semarang, USM, Java Central, du 21 au 26 juin 2023, concourait dans une nouvelle catégorie, à savoir le concours de robots sous-marins. Andy Kurniawan, président du comité du concours indonésien de robots 2023 à Semarang, a déclaré jeudi que 16 équipes de diverses universités indonésiennes avaient participé dans cette catégorie. Outre les robots sous-marins, le concours indonésien de robots 2023 concourait également dans 6 autres catégories, à savoir le concours indonésien de robots à bout, de robots SAR, de robots de football humanoïdes et à roues, de robots de danse et de robots thématiques. Au total, 136 équipes de 50 établissements d'enseignement supérieur ont réussi le concours de robots indonésiens de la région 2 à Semarang. Le concours a lieu au complexe de campus USM, y compris une piscine pour le concours de robots sous-marins. L'aéroport Agusti Ngurah Rai de Bali, l'un des aéroports gérés par Angkasa Pura 1, Société Anonyme ou APAN, a remporté le prix de leadership en gestion de l'énergie 2023. Le prix organisé par le ministère de l'énergie propre, CEM, est destiné aux acteurs de l'industrie et aux entités commerciales de tous les secteurs du monde entier qui ont mis en œuvre un système de gestion de l'énergie pour obtenir des avantages dans les domaines de l'énergie, l'économie et la durabilité. Le directeur technique d'Angkasa Pura 1, Lukman F. Laisa, a déclaré jeudi que l'aéroport Igusti Ngurah Rai Bali avait remporté un prix pour ses efforts dans la mise en œuvre du système de gestion de l'énergie ISO 5000 ans. Cité dans le communiqué officiel, le chef par intérim du secrétariat CEM, Prasun Agarwal, a expliqué que ce prix est destiné aux agences du monde entier pour leurs efforts et leurs innovations en matière de gestion de l'énergie et leur succès dans la réalisation d'une réduction très impressionnante de la consommation d'énergie et des émissions. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « Consensus en 5 points pour résoudre la crise en Birmanie ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, le gouvernement thaïlandais a tenu le 19 juin 2023 une réunion concernant la Birmanie à laquelle ont participé des représentants de certains pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ou ASEAN, tels que Brunei, le Cambodge, le Laos, le Vietnam, les Philippines et des représentants de la junte de la Birmanie. Des représentants de l'Inde et de la Chine étaient également présents à la réunion. Pendant ce temps, d'autres membres de l'ASEAN, dont l'Indonésie, qui a assumé la présidence cette année, ainsi que la Malaisie et Singapour, ont refusé d'assister à la réunion. La décision de la Thaïlande de faire pression pour une réunion informelle avec la junte militaire de la Birmanie, en dehors de la réunion de l'ASEAN, a suscité de nombreuses critiques, dont Thomas Andrew, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme de la Birmanie. Thomas Andrew a déclaré que la présence des représentants de la junte birmane à la réunion semblait confirmer que rien ne s'était passé dans le pays. Il considérait que la réunion initiée par la Thaïlande montrait que le consensus en 5 points convenu par l'ASEAN était dans l'impasse ou ne progressait pas. Par conséquent, selon lui, il est temps d'envisager des options alternatives pour sortir de l'impasse. Contrairement à l'évaluation de Thomas Andrew, le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire des responsables du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que jusqu'à présent, des progrès avaient été accomplis dans la mise en œuvre du consensus en 5 points, qui avait été convenu par les dirigeants des pays de l'ASEAN pour aider à résoudre la crise en Birmanie. Le consensus en 5 points appelait à la cessation de la violence, au dialogue avec toutes les parties prenantes et à la nomination d'un envoyé spécial pour faciliter la médiation et le dialogue. En outre, permettre à l'ASEAN de fournir une aide humanitaire aux citoyens de la Birmanie, ainsi que permettre aux envoyés spéciaux de l'ASEAN de visiter et de rencontrer les parties prenantes en Birmanie. Le personnel spécial du ministre indonésien des Affaires étrangères pour la diplomatie régionale, Ngurah Swajaya, a déclaré que l'ASEAN, sous la direction de l'Indonésie, a réalisé cette année des progrès dans la mise en œuvre du consensus en 5 points. L'un des progrès réalisés est l'achèvement d'une évaluation conjointe de l'aide humanitaire dont ont besoin les résidents touchés par le conflit en Birmanie. Selon Ngurah Swajaya, l'ASEAN a pu cartographier les points prioritaires pour la distribution de l'aide aux victimes du conflit en Birmanie. Entre-temps, concernant le processus d'encouragement d'un dialogue inclusif, il a expliqué qu'en tant que président de l'ASEAN, l'Indonésie avait tenu plus de 75 pour parler avec toutes les parties prenantes en Birmanie. L'Indonésie a également fait des démarches auprès de la junte militaire qui gouverne de facto la Birmanie et du gouvernement d'union nationale, NUG, à savoir le gouvernement fantôme de la Birmanie formé par la junte d'opposition. Comme l'a déclaré Ngurah Swajaya, l'ASEAN, sous la présidence de l'Indonésie, continue de travailler dur et de manière cohérente pour que la mise en œuvre du consensus en 5 points continue d'avancer dans la résolution de la crise en Birmanie. La crise en Birmanie est en effet très complexe, ne peut être achevée en peu de temps. Pour résoudre cette crise complexe, l'ASEAN, sous la présidence de l'Indonésie, n'a pas choisi d'autre option que celle du dialogue inclusif. Ceci est basé sur la conviction que la résolution de la crise par un dialogue inclusif est le seul moyen de créer une paix durable et durable en Birmanie. Toutes les parties doivent croire et soutenir l'option de dialogue inclusif poursuivie par l'ASEAN sous la présidence de l'Indonésie pour résoudre la crise en Birmanie. Bon, cher Jouetard, c'est tout. Le commentaire. La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023, est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts. Qui sait que vous devenez l'un des gagnants?
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 23 juin, l'anniversaire de la ville de Pekanbaru. Pekanbaru est la capitale de la province de Riau à Sumatra. Le nom de Pekanbaru était autrefois connu sous le nom de Senapelan, qui à l'époque était dirigé par un chef de tribu appelé Batin. Au XVIe siècle, Senapelan a continué à se développer. Un nouveau quartier résidentiel et il s'est transformé en le hameau de Payung Sekaki, situé à l'embouchure de la rivière Siak. Citant par Pekanbaru.go.id, Senapelan est devenu une escale pour les navires hollandais et a joué un rôle important dans le trafic commercial à cette époque. Le développement de Senapelan est très proche du royaume de Siak Sri Indrapura. Senapelan, alors plus populairement appelé Pekanbaru, a été officiellement fondé le 23 juin 1784 par le Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Sous le règne du Sultan Yahya, qui ensuite était désigné comme l'anniversaire de la ville de Pekanbaru. Jusqu'à présent, le 23 juin est célébré comme l'anniversaire de la ville de Pekanbaru. Cette année, Pekanbaru célèbre son 239e anniversaire avec le thème « Pekanbaru se déplace pour grandir avec dignité ». Le 23 juin, la Journée internationale des veuves. Les Nations Unies commémorent le 23 juin comme la Journée internationale des veuves depuis 2011. La commémoration est basée sur la résolution « La Journée internationale des veuves est commémorée pour prêter attention aux voix et aux expériences des veuves et soutenir la réalisation des droits et la reconnaissance des veuves ». Lancée à partir du site web officiel de l'ONU, la commémoration de la Journée internationale des veuves vise également à fournir des informations sur l'accès à une part équitable et héritage de la terre et des ressources productives. En outre, les Nations Unies ont également demandé au gouvernement de chaque pays de s'assurer que les droits des veuves sont respectés. Certains de ces souhaits sont finalement devenus l'une des raisons de la Journée internationale des veuves. Le 23 juin 2012, Westlife se dissout officiellement à Croke Park en Irlande. Westlife est un groupe vocal irlandais. Ce groupe n'a pas seulement connu le succès en Irlande et en Grande-Bretagne dans les années 2000, le nom Westlife était connu dans le monde entier. Ils ont marqué 14 singles entre 1999 et 2005. Ce groupe a été formé le 3 juillet 1998 et dissous le 23 juin 2012. Après une interruption de 7 ans, Westlife a décidé de se réunir et de se lancer dans une tournée mondiale intitulée Westlife The Venture 2019. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Dengarlah cinta hatiku. datang jika tak ada kamu menemani aku.
Dengarlah cinta, ku memanggil namamu di setiap malamku. Ku pikirkan kamu.
Aku sepi, 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 sepi jika tak ada kamu.
Aku mati, 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 mati jika engkau pergi.
Dengarlah kesayanganku, jangan tinggalkan aku. Tak mampu jika ku tanpamu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, pour la suivante, voici donc Mon Indonésie, dont le titre est Le gouvernement indonésien révoque officiellement le statut de pandémie de COVID-19. Le président indonésien Joko Widodo ou Jokowi, via la chaîne YouTube du secrétariat présidentiel, a officiellement annoncé la révocation du statut de pandémie COVID-19 en Indonésie, mercredi 21 juin 2023 au Palais Merdeka, Jakarta. Le président a déclaré qu'avec la révocation, l'Indonésie entrerait dans une période endémique. Le président a mentionné trois raisons pour révoquer le statut de pandémie COVID-19. Premièrement, cette décision a été prise conformément à la révocation du statut d'urgence de santé publique de portée internationale, PHEIC, pour la COVID-19, qui a été effectuée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Deuxièmement, le nombre de confirmations quotidiennes de cas de COVID-19 en Indonésie est proche de zéro. Troisièmement, le résultat de l'enquête sérologique montre que 99% des Indonésiens ont des anticorps contre la COVID-19. Entrant dans la période endémique, le président Joko Widodo a rappelé au public de rester prudent et de continuer à adopter des comportements de vie sains et propres. En outre, le président espère que cette décision de la révocation pourra accroître le dynamisme de l'économie nationale, améliorant ainsi la qualité de la vie sociale et économique de la population. La pandémie de COVID-19 en Indonésie dure depuis plus de 3 ans. Le premier cas du virus corona en Indonésie a été découvert le 2 mars 2020. La même année, le président Joko Widodo a officiellement déclaré que la transmission de la COVID-19 était une catastrophe nationale. Cette décision a été prise par la publication du décret présidentiel numéro 12 de 2020 concernant la désignation des catastrophes non naturelles avec propagation de la maladie à virus corona 2019 ou COVID-19 comme catastrophe nationale. Les dernières données du groupe de travail sur la gestion de la COVID-19 montrent qu'au mercredi 21 juin 2023, il y avait 6 811 444 cas de COVID-19 en Indonésie. Ce nombre a été enregistré à partir du premier cas de COVID-19. Pendant cette période, 161 853 personnes sont mortes à cause de la COVID-19. En réponse à la situation pandémique, le gouvernement indonésien a mené et continue de mener le programme de vaccination contre la COVID-19. Au total, plus de 234,6 millions de personnes ont été la cible de la vaccination. Au mercredi 21 juin 2023, plus de 203,8 millions de personnes ont été vaccinées avec la première dose. Pendant ce temps, les résultats de la deuxième dose de vaccination ont atteint près de 175 millions d'individus. C'est Zurita, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Like the old-fashioned way, just like they do in old movie. When Romeo meet Juliet, when Harry met Sally, no emojis, and we don't need IG story. We just say what we wanna say to a love letter and poetry. I wanna sing a song that make you smile. I want to buy a flower just for you. So let me take your hand. We take a walk at night across the city until the morning sun. Even if the rain falls down, we're still dancing in the rain. Baby, let's fall in love like the old-fashioned. Wanna say to a love letter and
take a walk at night across the city until the morning sun. Even if the rain falls down, we're still dancing in the rain. Baby, let's fall in love like the old-fashioned way. Let's fall in love just for you and me, like the old-fashioned way. Let's fall in love just for you and me, like the old-fashioned way.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de magazine culturel intitulée Le parc touristique Alam Karandangan. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, en tant que destination touristique, Lombok, dans Nusa Tenggara occidentale, a une variété d'attractions, à partir de la beauté de la plage, de la richesse sous-marine, des coutumes culturelles, du tourisme sportif, de la montagne et du tourisme d'aventure basé sur la nature. Pour ceux d'entre vous qui aiment le tourisme d'aventure basé sur la nature, vous devez visiter le parc touristique naturel de Karandangan, dans la zone du village touristique de Senggigi à Lombok occidental. Ici, vous pouvez explorer la zone forestière qui totalise 386,10 hectares et profiter de l'atmosphère naturelle sereine. Tracer le chemin à l'ombre de grands arbres ombragés accompagnés du chant mélodieux des oiseaux. Visitez Karandangan TWA, la cascade Prince Jumel et la grotte d'Hirondelle sont généralement vos principaux objectifs. L'accès est facile. Il vous suffit de marcher le long du chemin, une combinaison de pavages et de terre sur environ 2 km. L'altitude n'est pas non plus élevée. Ainsi, se balancer entre amis ou en famille sera une activité très amusante. Mais pour ceux qui veulent s'aventurer plus loin, le parc naturel de Karandangan a une destination touristique excellente pour les touristes, à savoir l'observation des oiseaux, notamment les activités d'observation d'oiseaux réalisées en milieu sauvage ou dans leur habitat naturel. Il existe plusieurs espèces d'oiseaux dont l'habitat se trouve dans la TWA de Karandangan. Certains d'entre eux sont dans la catégorie des espèces menacées, comme l'aigle de flore ou bien Nisaetus floris. En dehors de cela, il y a aussi le Celepuk Rinjani, Otus jolandei et le Cekaka Aku chocolat, Todirampus australasia, qui sont tous deux presque menacés. En dehors de cela, il y a aussi Kehichap Twig, Cekakak Sungai, King Blue Stream et bien d'autres. Au total, 56 espèces d'oiseaux ont été enregistrées dans cette zone. C'est ce qui rend Grandangan TWA de plus en plus populaire comme l'une des destinations préférées des touristes pour la réalisation d'activités de tourisme de nature, surtout pour ceux qui ont un intérêt particulier ou un intérêt pour les animaux. Outre les oiseaux, Grandangan TWA est également une maison pour une rangée d'autres animaux tels que des serpents et des papillons. Il y avait 11 types de serpents, dont 3 étaient venimeux, à savoir les vipères et les cobras. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent explorer la nature de TWA Grandangan, il existe des forfaits touristiques pour les touristes étrangers. Des forfaits nature sont proposés au prix de 3 à 5 millions de roupies pour les touristes locaux, autour de 1 million à 3 millions de roupies. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le magazine culturel.
Bersamamu sengaja tuk habiskan waktu tuk temani jiwaku jiwa yang selalu ada untukmu selalu kau yang berbeda untukku hanyalah dirimu di sini tetaplah engkau di sini temani diriku.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée Université Pajajaran préserve la sauce soja en exposant 150 sauces soja de différentes régions. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, l'Indonésie est riche en une variété d'épices traditionnelles, de sauces et de sauces soja au goût unique. L'Université de Pajajaran à Java Occidental tente de préserver l'une des épices spéciales de l'Indonésie, à savoir la sauce de soja, en exposant jusqu'à 150 sauces de soja de diverses régions d'Indonésie, a donné aux visiteurs une expérience pour savoir ce qu'est la sauce de soja. C'est aussi un patrimoine culturel appartenant à l'Indonésie. Outre l'exposition de produits à base de sauce soja, une exposition d'archives ou des documents sur la sauce soja de l'époque coloniale, dégustation de sauce soja, projection de documentaires, débats et démonstrations culinaires ont également été présentés. Ardian a estimé qu'actuellement, peu de gens sont conscients de la diversité de la sauce soja des différentes régions. Dès lors, son équipe tentait de documenter et de retracer son histoire. Cette exposition retrace également l'histoire de la sauce soja à travers le repérage de documents hollandais datant de 1898. Chers amis, lors de la foire, les visiteurs peuvent essayer environ 10 sauces de soja différentes exposées. Les visiteurs peuvent également voir la différence de consistance, de couleur et de goût de chaque sauce de soja et voir des artefacts sur la sauce de soja de 1930 à 1988. L'exposition, qui s'est tenue à la mi-mai, raconte beaucoup de choses sur l'anthropologie et la culture indonésienne à travers le goût d'une bouteille de sauce soja. Bon chargeur d'art, c'est tout. L'Indonésie en couleur. voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voice International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants. From Indonesia to the world. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons la chanson de Nusa Tenggara Occidentale intitulée Tutu Koda. Chers amis, cette chanson a les nuances de conseils et d'enseignements à chacun pour toujours travailler dur. La chanson Tutu Koda raconte la vie d'un enfant qui vit dans un village, qui vit une vie dure. Bon, chers auditeurs, voici Elfas et Soria va chanter une chanson de Nusa Tenggara Occidentale intitulée Tutu Koda. Bonne écoute.
Sare mata nan raya lela pada di ma'a
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.